Olivier de Schutter est juriste et professeur de droit international à l'UCL. De 2008 à 2014, il a assumé le mandat de rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation du Conseil des droits de l'homme à l'Organisation des Nations Unies. C'est donc un expert de ce qui demain seront les nouvelles balises du vivre ensemble. L'urgence d'une transition démocratique était le thème de cette nouvelle conférence donnée le 18 novembre 2017 à la Vennerie, le centre culturel de Watermael-Boitsfort, à l'invitation des compagnons de la transition.
Bienvenue à tous et à toutes, et je voudrais d'abord remercier naturellement Fabienne et Alexis et vous dire tout le plaisir que j'ai à soutenir les compagnons de la transition dans leurs nombreuses initiatives. Merci à vous d'être ici cet après-midi pour débattre de cette question de la transition démocratique. Je voudrais, pour expliquer comment nous allons traverser cette question, partir de deux histoires. La première est un peu ancienne, un peu lointaine. La seconde est beaucoup plus proche, y compris sur le plan géographique, aussi temporel. La première histoire se situe à l'Université de Harvard en 1990, où je suis dans un auditoire, je suis à un séminaire sur Reinventing Democracy, donné par un professeur brésilien qui s'appelle Roberto Unger, et il enseigne la démocratie. Et Roberto Unger est un professeur qui parle comme s'il était inspiré par une sorte de source divine, il parle sans notes, il débite son discours qu'il a, ai-je compris plus tard, en revenant à ses cours, appris par cœur, comme un acteur le fait sur une scène de théâtre. Et au bout de quelques heures de ce discours sur la démocratie, quelqu'un ose lever son doigt, c'était une femme, je m'en rappelle, qui dit « Vous parlez de démocratie, mais dans cet auditoire, il n'y a pas de démocratie, vous ne demandez jamais notre avis. Nous, on aimerait aussi nous exprimer, il y a des choses que nous aimerions dire. » Évidemment, d'autres rétorquent, oui, mais avant de pouvoir parler, il faut apprendre, nous ne sommes que des étudiants, lui est un professeur, etc. Et Roberto Unger clôt la séance en promettant que la semaine suivante, on aura un débat sur la démocratie. Ce débat se tient, je ne me rappelle plus les détails, je me rappelle cependant qu'il y avait à la fin du débat un étudiant que j'admirais beaucoup, qui avait 10 ans de plus que moi, et qui demande à prendre la parole et qui a fait une magnifique synthèse de la discussion en donnant raison aux uns et raison aux autres, en faisant comprendre à chacun qu'il avait été entendu. Cet étudiant s'appelait Barack Obama. Il a eu un destin magnifique par la suite. Deuxième histoire. C'était avant-hier, à Louvain-la-Neuve. Je coordonnais un atelier sur la démocratie avec Philippe Lamberts. Et assez rapidement, après à peu près 20 minutes de discussion, quelqu'un se lève, c'était une femme, je m'en rappelle, qui dit, c'est un atelier sur la démocratie, et voilà que vous avez des experts, Philippe Lamberts, moi-même, un professeur qui s'appelle Vincent Jacquet, qui est un collègue à l'UCL, mais le public devrait aussi pouvoir interroger ces propositions qui sont faites sur les manières de régénérer la démocratie. Et un chaos s'en étant suivi, magnifique, où tout le public a pu prendre part à la discussion, où au lieu que ce soit les trois experts, Philippe Lamberts, Vincent Jacquet et moi-même, qui choisissions le projet qui serait présenté en plénière, ces six projets étaient présentés, il fallait qu'on en choisisse un, c'est le public qui a voté au bout du compte pour un projet, non sans que les membres du public aient d'abord discuté entre eux, chacun avec son voisin, et puis un rapport se fait à l'assemblée plénière pour expliquer quels sont les critères qui ont été choisis, de manière telle que le vote n'a pas été un vote simplement dans la solitude où chacun se trouve de réfléchir par lui-même. Non, c'est un vote éclairé par la discussion. Voilà. Et la démocratie, c'est ça. Au fond, c'est l'invention de nouvelles manières de décider. C'est aussi l'improvisation, c'est la prise de pouvoir. Et c'est la rupture de cette séparation entre les sachants et celles et ceux qui ne savent pas, les gouvernants et les gouvernés, les décideurs et les exécutants. Et c'est cette séparation entre les uns et les autres que la démocratie cherche à combattre. Le problème, évidemment, c'est que le système démocratique tel qu'il a évolué, en fait, loin de questionner cette séparation entre gouvernants et gouvernés, entre décideurs et exécutants, n'a fait que le renforcer. C'est ce paradoxe qu'on va tenter de comprendre ensemble. Et pour cela, je voudrais peut-être amener une troisième histoire avant de vraiment commencer. Qui est déjà allé à Saillant ? Oui, quelques-uns de mes amis, des compagnons de la transition, on a eu le plaisir de se voir d'ailleurs en Drôme. Saillant est un magnifique bourg, 2200 habitants. Et c'est un bourg qui a eu une histoire intéressante au cours des dernières années, parce qu'aux élections municipales de 2014, s'est posée la question de savoir si le maire allait donc être réélu. Et le maire avait donné son appui au projet de construction d'un supermarché, un peu à l'extérieur du bourg. Et il avait sans doute la conviction que ce supermarché revitaliserait l'endroit, créerait peut-être quelques emplois. Et plusieurs habitants se sont opposés à ce projet en disant que ça allait, défigurer le paysage, deux, faire perdre de leur clientèle aux petits commerces locaux. Curieusement, je leur ai posé la question plusieurs fois, ils n'ont pas réussi à ce que les commerçants locaux se mobilisent contre ce supermarché, parce que les commerçants locaux avaient l'impression que le maire allait leur en vouloir et qu'ensuite il serait beaucoup plus difficile d'obtenir de la mairie les services que la mairie leur fournissait. Mais des habitants se sont mobilisés. Et n'obtenant du maire aucune réponse digne de ce nom, aucune justification de la décision qu'il avait prise quant à ce supermarché, ces habitants se sont réunis et ont discuté en un groupe qui ne devait pas être beaucoup plus nombreux que celui que nous avons réuni cet après-midi. Et au terme de cette discussion, s'est présentée l'idée de proposer une liste citoyenne. Une feuille à circuler, celles et ceux qui voulaient participer à la liste n'avaient qu'à marquer leur nom sur cette feuille, et certains l'ont fait sans naturellement envisager qu'ils seraient un jour élus maire adjoint à la commune de Saillant. Car en effet, cette liste a été présentée et aux élections, elle a remporté la majorité des suffrages. Surprise ! Voilà des gens qui ne sont affiliés à aucun parti politique, qui n'avaient aucun programme politique, dont le seul programme était que les décisions ne seraient plus prises dorénavant sans consulter les citoyens et citoyennes. Et leur programme, c'était la démocratie. Leur seule promesse était de changer la manière de gouverner Saillant et d'organiser à intervalles réguliers des agoras où chacun pourrait faire valoir son point de vue en amont des délibérations du conseil communal. Les trois mots clés cette liste citoyenne, c'est collégialité, participation et transparence. Collégialité parce que pour éviter une personnalisation du pouvoir et une appropriation des compétences par les différents membres de cette majorité qui s'est dégagée aux élections, chaque domaine est partagé entre au moins deux des membres de la liste citoyenne. Donc ils travaillent en duo, se corrigeant mutuellement, se contrôlant mutuellement, ayant l'un et l'autre à rendre des comptes. Ça, c'est la collégialité, des binômes de compétences. Et c'est ainsi qu'ils décrivent cela. La participation, parce que, indépendamment du conseil communal, qui évidemment continue à fonctionner, ça c'est la règle en France, ils ont institué j'utilise les mots qui sont ceux qu'ils utilisent eux-mêmes, des comités de pilotage qui sont ouverts à tous et des commissions thématiques, d'où des propositions peuvent émaner, que le conseil communal va devoir alors examiner. Ces commissions thématiques sont des groupes de travail, en général, qui réunissent une dizaine de citoyens de Saillant, qui font des propositions sur les thèmes de leur choix. Mais ces commissions thématiques, pour éviter qu'elles ne réunissent que des personnes favorables à tel ou tel projet, voient leurs propositions examinées ensuite par un organe qui s'appelle l'Observatoire de la participation, qui est une instance critique, qui va, au fond, instruire à charge et à décharge la proposition qui émane de ces citoyens. Mais ce qui est intéressant, c'est que toute question, même la plus inattendue et la plus apparemment bizarre, peut être mise à l'ordre du jour du conseil communal grâce à ce travail, de ces groupes de travail constitués par des citoyens volontaires, bénévoles, qui se réunissent dans le but d'obtenir tel ou tel résultat. Et puis, transparence, tout ce qui se passe dans ces commissions thématiques et au conseil communal est immédiatement transmis sous forme de PV et mis online. Donc chacun peut s'intéresser à la vie communale pratiquement en temps réel et interpeller par conséquent les élus de cette liste citoyenne. Alors, C'est une expérience tout à fait intéressante qui montre en même temps la difficulté d'une telle participation à la base, parce que la démocratie, cela exige du temps, de l'énergie. Il faut éviter que ce soit toujours les mêmes qui s'investissent dans ces commissions thématiques et qui consacrent leur soirée et leur week-end à animer la vie démocratique de Saillant. J'y reviendrai, mais donc c'est peut-être un peu tôt pour tirer le bilan, mais ce qu'ils me disent, c'est que c'est maintenant qu'il faut réinjecter de l'énergie, parce que sinon les gens se fatiguent de devoir régulièrement passer une soirée, une après-midi, à débattre de sujets d'intérêt public. Alors, voilà, au fond, trois histoires qui expliquent la manière dont je vais procéder. Je vais certes introduire un peu la discussion, en vous donnant ma propre lecture, si vous voulez, de ce qui est en train de se jouer avec ce questionnement, ce renouvellement de la question de la démocratie. Et puis, nous allons avoir une discussion entre nous. Et j'espère que la seconde partie de cette conférence, celle qui vous impliquera de manière très active, sera la plus riche. Je vais simplement poser quelques jalons. Alors, je voudrais peut-être partir, et maintenant je commence au fond à poser ces jalons, partir de ce livre de David Van Reybrouck, que naturellement vous connaissez. C'est en partie le travail de Van Reybrouck qui a inspiré le thème « Démocratie et nous ». Van Reybrouck qui a été l'initiateur de ce mouvement, ou de cet événement plutôt G1000, qui a réuni 700 personnes en 2012, pour discuter certains sujets d'intérêt public, tels que la mobilité, l'immigration, par exemple, et qui, poursuivant sur sa lancée, a ensuite publié cet ouvrage Contre les élections, qui a un titre de pamphlet, mais qui, en fait, est un livre extrêmement riche, équilibré et, naturellement, très, très intéressant. Alors, que dit Van Reybrouck, qui est un démocrate, évidemment, et qui, malgré tout, considère que les élections ne peuvent pas être l'alpha et l'oméga de la démocratie, et que le moment est peut-être venu de repenser notre manière d'être démocrate. Ce que nous rappelle Van Reybrouck, c'est que lorsque la démocratie est née, sous la forme que nous lui connaissons aujourd'hui, sous la forme d'une démocratie représentative fondée sur l'élection, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, avec un suffrage peu à peu devenu universel, la démocratie était vue par ceux qui en étaient les partisans, j'utilise à dessein le masculin ici pour désigner les décideurs de l'époque, comme une manière, au fond, de se protéger de l'irrationalité des masses. La démocratie électorale, les élections, étaient une manière d'éviter que les masses débordent la décision politique, prennent par surprise, si vous voulez, les élites. Et il rappelle, Van Reybrouck rappelle, que dans l'ouvrage « L'esprit des lois » de Montesquieu, qu'il publie en 1748, dans Le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, qu'il publie en 1764, ces auteurs mettaient en avant le tirage au sort comme manière véritablement démocratique d'organiser la décision dans une cité, et non pas l'élection. L'élection était vue comme le mode de décision aristocratique. L'élection, au fond, c'est le choix par les électeurs des aristoi, les meilleurs en grec, des notables, de celles et ceux qui parlent le mieux en public, de celles et ceux qui ont réussi à capter l'attention des gens par des procédés parfois rhétoriques et parfois trompeurs. Bref, l'élection conduit à une sélection des meilleurs pour parler et penser au nom de tous les autres. Et c'est vrai que les révolutionnaires français, quoi qu'ils aient érigé Jean-Jacques Rousseau et la pensée de Jean-Jacques Rousseau en exemple, parce que Rousseau est le théoricien de la souveraineté populaire, et que cela permettait aux révolutionnaires français de dire « Certes, nous avons pris le pouvoir au roi, Mais nous l'exerçons au nom du peuple. Donc, vous voyez Rousseau, nous sommes pleinement légitimes. Ils puisaient là, dans la souveraineté du peuple, leur légitimité. En fait, ils ont lu Rousseau de manière extrêmement sélective. Rousseau, en effet, nous dit des choses parfois un peu contradictoires. Il nous dit que dans des grandes nations, sur des grands territoires, la véritable démocratie est sans doute une utopie. Il n'a jamais existé de véritable démocratie, il n'en existera jamais. Il est contre l'ordre naturel que le grand nombre gouverne et que le petit soit gouverné. On ne peut imaginer que le peuple reste incessamment assemblé pour vaquer aux affaires publiques, et l'on voit aisément qu'il ne saurait établir pour cela des commissions sans que la forme de l'administration change. Et donc c'est l'ordre le meilleur et le plus naturel que les plus sages gouvernent la multitude quand on est sûr qu'ils la gouverneront pour son profit, celui de la multitude, et non pour le leur. Et c'est ça que les révolutionnaires français ont sorti du contrat social. En fait, s'ils avaient lu quelques pages plus loin, ils auraient vu que Jean-Jacques Rousseau était en faveur du tirage au sort quand le choix, c'est-à-dire l'élection, et le sort se trouvent mêlés. Le premier doit remplir les places qui demandent des talents propres, tels que les emplois militaires, qui demandent une expertise. L'autre, le tirage au sort, convient à celles, ces places, où suffisent le bon sens, la justice, l'intégrité, telles que les charges de judicature, la magistrature, parce que dans un État bien constitué, ces qualités sont communes à tous les citoyens. Au fond, ce que dit Rousseau, c'est que chaque citoyen, il aurait dû dire chaque citoyenne, mais il n'était pas un grand féministe, Rousseau, chaque citoyen a des qualités qui permettent d'exercer un rôle dans la cité. Et il serait profondément démocratique que chacun puisse, à tour de rôle, ou par tirage au sort avec une chance égale, exercer une fonction dans la cité. Et c'est d'ailleurs aussi ce que rappelle Bernard Manin dans Principe du gouvernement représentatif, qui a beaucoup inspiré David Van Reybrouck, c'est que la démocratie, telle qu'elle avait initialement été conçue, je le répète, était une manière pour les élites de se protéger de cette, de ce risque que les masses, prenant le pouvoir, elles introduisent des réformes qui auraient mis en cause leur privilège, la stabilité de la société. En d'autres mots, la démocratie était là pour déradicaliser les attentes. C'est cela qui, aujourd'hui, est en train d'être remise en cause. Et quand je m'interroge sur les raisons de cette remise en cause, j'aboutis à une liste qui, malheureusement, est un peu longue. Je vois 5 raisons pour lesquelles, aujourd'hui, un livre comme celui de Van Reybrouck a du succès. Pourquoi les gens se mobilisent, organisent des cycles de formation démocratie et nous? Et pourquoi, au fond, une certaine impatience croît par rapport à la démocratie telle qu'elle fonctionne. Et je voudrais ici aller au-delà des clichés, des poncifs habituels sur les partis politiques qui sont corrompus ou la professionnalisation de la politique qui crée un écart entre les représentants et les électeurs. Je voudrais tenter d'aller un peu plus loin que ces poncifs habituels. Et la première remarque que je voudrais faire, c'est que lorsque l'on procède par élection, pour qu'une décision soit prise, c'est-à-dire que l'on délègue à d'autres le soin de délibérer entre eux, entre élus, pour prendre des décisions, beaucoup des attentes du public se trouvent, par ce fait même, déradicalisées. Au fond, les élus sont plus sages que leurs électeurs voudraient qu'ils le soient. Et pourquoi cela est-il le cas ? Ça tient à plusieurs facteurs. D'abord, à la sociologie même des personnes qui sont élues, qui sont rarement représentatives de l'ensemble des personnes de la population, et notamment des ménages les plus défavorisés, et qui ont par conséquent le moins à perdre dans une réforme d'ensemble de la société. Ça tient aussi au fait que les décideurs sont entourés d'experts qui ont une approche très technocratique des choses, et quoi qu'ils fussent experts d'un domaine déterminé, ils sont aussi extrêmement craintifs d'introduire des réformes qui impliqueraient certains risques qu'ils ne pourraient pas contrôler. Ils ont une aversion au risque qui est liée à leur formation de technocrate. Et puis, Troisième raison, c'est que ces élus sont très souvent influencés par les grands intérêts économiques. Alors, je le dis avec beaucoup de réserve, parce que je déteste le populisme et la mise en accusation de la politique, comme si tous les politiques étaient à mettre dans le même sac, évidemment. Mais je voudrais quand même rappeler qu'il y a de plus en plus d'études qui montrent cette captation du pouvoir politique par les élites économiques. Certains d'entre vous ont déjà peut-être vu cette étude de Martin Gillens et Benjamin Page, qu'ils ont publiée en 2014. Ces deux auteurs ont étudié 1779 dossiers présentés pour une décision au Congrès fédéral américain. Et ils ont, pour chacun de ces dossiers, posé la question de savoir quelles étaient les attentes de l'opinion publique et quelles étaient les attentes du monde de l'entreprise, des grands employeurs, des fédérations d'entreprises, etc. Ils ont fait cette étude sur de nombreuses années, et en ce qui concerne les attentes des citoyens, ils constatent que lorsque 10%, 20% des citoyens attendent qu'une décision soit prise, eh bien il y a, vous le voyez, 0,3 sur une échelle de 0 à 1, donc 30% de chances que la décision soit prise. Lorsque 80% des citoyens voudraient qu'une décision soit prise, ou 90%, il y a 0,3, donc 30% de chances que la décision soit prise. L'encéphalogramme politique est plat par rapport aux attentes des citoyens. C'est la conclusion à laquelle ils arrivent. La hauteur de ces colonnes, c'est simplement le nombre de dossiers qui permettent d'établir cette statistique ou de définir cette courbe. Beaucoup de dossiers se situaient non pas aux extrêmes, mais ici, mais ceci nous donne une bonne idée de ce que les attentes des citoyens ne comptent finalement guère dans le output du système politique. Les mêmes dossiers, si l'on se pose la question de savoir quelles étaient les attentes exprimées par les grands acteurs économiques, les entreprises, aboutissent à ceci. Lorsque très peu d'entreprises veulent qu'une mesure soit prise, les chances qu'elle soit adoptée sont extrêmement faibles. Lorsque tout le monde de l'entreprise est derrière une réforme, les chances de son adoption sont beaucoup plus élevées. C'est les ordonnées de gauche qui sont utiles pour cela, avec des chances d'adoption beaucoup plus fortes. Alors, il y a cela, il y a aussi ce que la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, met en avant dans son tout dernier rapport, publié il y a quelques jours. Elle parle d'économie rentière, la CNUSED, et elle veut dire par là qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les grands intérêts économiques parviennent à traduire en influence politique leur poids économique et par conséquent obtiennent des réformes politiques qui servent leurs intérêts économiques. En d'autres mots, l'économie rentière, c'est ça, c'est une économie de rente où les grands acteurs parviennent à améliorer encore leur position dominante sur les marchés et dans l'économie grâce à leur entrisme dans le monde politique. Donc, je pense qu'une première série de raisons pour lesquelles s'est installée cette fatigue de la démocratie et pour lesquelles cette transition de la démocratie est nécessaire, c'est parce que les gens commencent à ne plus croire en la capacité pour les politiques, au fond, de traduire sincèrement, fidèlement, les attentes de l'électorat. Deuxième facteur, c'est que longtemps, on a pensé qu'il y avait une sorte de, comment dire, de trade-off, de compromis entre les exigences de légitimité et les exigences d'efficacité. Après tout, si l'on veut être efficace, il faut aller vite, il faut en appeler à l'expertise des experts, il faut se méfier de la participation citoyenne trop étendue, qui est lente et pas nécessairement source de sagesse. Et on avait l'impression que légitimité et efficacité étaient opposées l'une à l'autre. Aujourd'hui, cependant, on considère de plus en plus que légitimité et efficacité se renforcent mutuellement. Pourquoi ? Parce que dans une société complexe, si des décisions sont prises dont personne ne comprend le sens, dont personne ne partage, au fond, la philosophie, qui rencontrent une résistance passive des gens parce que ces décisions ne sont pas légitimes, ces décisions ne seront pas efficaces. La décision politique tourne à vide dès lors qu'elle n'est pas informée par le savoir des experts que sont les citoyens et citoyennes. Si la décision politique n'est pas adoptée à travers un processus participatif, les solutions apparemment dictées par les technocrates, par les experts, ne vont pas être informées, ne vont pas être perçues comme légitimes, ne vont pas être comprises et par conséquent seront très difficiles à mettre en œuvre. Plus une décision est légitime, plus elle sera efficace parce qu'elle sera comprise, perçue comme juste et chacun, de manière plus ou moins spontanée, va faire en sorte que cette décision soit mise en œuvre et fidèlement exécutée. Donc, c'est une deuxième raison pour laquelle on est en recherche maintenant d'autres choses. Troisième facteur, c'est que quand Jean-Jacques Rousseau écrivait, ou quand notre État, la Belgique, s'est constitué, il y avait dans la population des différences très importante entre les notables qui lisaient, écrivaient, publiaient des tribunes dans les journaux, et la masse, le peuple, plus ou moins illettré et ignorant. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. N'importe quel jeune aujourd'hui à qui j'enseigne peut, en quelques clics, en savoir davantage sur n'importe quel sujet, sauf les sujets dont je suis expert, que moi. Je veux dire, il y a énormément de choses qui sont dans le débat public sur lesquelles il est très facile de s'informer pour avoir une information permettant de se forger son opinion. Et donc, cette idée qu'on a besoin de déléguer à d'autres le soin de penser pour soi, le soin de décider pour soi parce que l'on ne sait pas et l'on n'est pas en mesure de se forger une opinion, est une idée qui paraît quand même de plus en plus désuète. Et je me réjouis pour ma part que de plus en plus, les politiques aient à répondre à des questions bien informées de citoyens et citoyennes ordinaires qui parviennent à obtenir cette information grâce à l'accès devenu très peu coûteux et très facile à l'information nécessaire pour participer au débat public. Alors, quatrième facteur qui contribue à cette décrédibilisation de la politique, c'est le fait de la mondialisation et l'incapacité où se trouve le politique de vraiment offrir un rempart aux conséquences de la mondialisation. La mondialisation, c'est quoi ? Alors, ce n'est pas seulement l'augmentation du flux des échanges de marchandises, de la circulation des capitaux ou des offres de services à travers les frontières. La mondialisation, c'est surtout une parcellisation du processus de production et distribution répartis sur plusieurs États, permettant aux grands acteurs économiques, ce qu'on appelle les sociétés transnationales qui contrôlent ces processus mondiaux de production et distribution, de choisir où elles vont investir et elles vont mettre leurs ateliers là où le travail est le moins cher et les libertés syndicales les moins importantes, où produire et elles vont choisir où mettre leurs usines polluantes là où les normes environnementales sont les moins strictes, choisir où déclarer leurs profits. Rappelez-vous les Paradise Papers, il y a quelques jours. Et elles vont déclarer leurs profits dans les juridictions où le taux d'imposition est le plus faible, voire même, pourquoi pas, où il est égal à zéro. Et donc, les entreprises transnationales, multinationales, peuvent organiser le processus de production, de distribution et de déclaration des profits en fonction des opportunités que la mondialisation leur offre. La conséquence, cependant, c'est que les gouvernements se trouvent désarmés, pardon, c'est un langage militaire et irénique, mais qui convient ici, les États se trouvent désarmés, incapables de véritablement faire rempart à ces comportements. Pourquoi ? Parce que ces entreprises misent les États les uns contre les autres. L'expression anglaise qui décrit ça, c'est « regulatory arbitrage », et c'est bien l'idée, c'est qu'on... On met les États en concurrence les uns avec les autres pour obtenir d'eux des concessions, chaque État voulant qu'on mette son usine chez lui, qu'on crée des emplois chez lui, qu'on investisse chez lui. Et se développe alors une concurrence sociale, environnementale et fiscale entre les États. Ceci donne lieu à ce qu'on appelle le dumping social, environnemental ou fiscal. La mondialisation, c'est ça. C'est ça, et voyez par exemple le livre de Gabriel Zucman, La richesse cachée des nations, ou le livre de Eric Walravens sur le même thème du dumping fiscal, le dumping fiscal enquête sur un chantage qui ruine nos États. Ce sont des livres qui donnent des tableaux tout à fait fascinants de ce que les Paradise Papers sont en train aujourd'hui de encore démontrer de manière très spectaculaire. Alors, la mondialisation qui désarme le politique explique que beaucoup d'initiatives démocratiques aujourd'hui aillent de pair avec une volonté très explicite de relocalisation des économies. Et ceci pour quatre raisons qui me paraissent intéressantes. Il y en a peut-être d'autres qui vous viendront à l'esprit tout à l'heure. La première raison, c'est que c'est au niveau local que l'on ose le plus. Je constate d'ailleurs qu'en matière de lutte contre le changement climatique, ce sont les villes qui en font le plus, par exemple à travers le réseau C40, fondé à l'époque par le maire de Londres, Livingstone, présidé aujourd'hui par la maire de Paris, Anne Hidalgo. On a un réseau de fearless cities, les cités sans peur ou les villes sans peur, qui a fait son congrès à Barcelone au début du mois d'octobre. On a, en matière d'alimentation, le pacte de Milan sur les politiques alimentaires urbaines, qui réunit 140 villes dans le monde qui veulent reconstituer des systèmes alimentaires locaux. C'est au niveau des villes qu'aujourd'hui se situe le centre de gravité de l'innovation politique. Et c'est là que l'on ose prendre des mesures qui, au niveau national ou a fortiori européen ou international, ne seraient pas des mesures qu'on oserait prendre, tant les points de veto sont nombreux et tant les pressions qui s'exercent sur les politiques sont importantes. Et je suis convaincu pour ma part qu'il est infiniment plus facile pour les grands acteurs économiques, les sociétés transnationales en particulier, d'influencer la décision du Parlement européen ou d'influencer la décision de la Chambre des représentants en Belgique que d'influencer la décision du Conseil communal de Boisfort. Si Monsanto voulait empêcher le Conseil communal de Boisfort d'adopter une résolution quelconque, immédiatement, il serait démasqué, dénoncé, et d'ailleurs, ils auraient beaucoup de mal simplement à être en mesure d'influencer cette décision, tant la transparence est plus grande au niveau local, alors qu'il leur est très facile de bloquer ou d'influencer la décision au niveau supérieur de gouvernance. Alors, deuxièmement, c'est au niveau local que la démocratie interpersonnelle, intersubjective, a une chance de se développer. Je m'explique. La démocratie électorale classique est une démocratie dans laquelle tous les 5-6 ans, chacun muni de son bulletin se rend dans l'isoloir et seul, à l'abri des regards, vote en faveur d'une liste électorale, parfois en faveur d'un individu qui a sa préférence, et puis se retire pour 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, sanctionner ou au contraire encourager le renouvellement de ce mandat. Et cette conception très pauvre de la démocratie ne laisse aucune place quelconque à la discussion entre citoyens et citoyennes ordinaires. Chacun s'enferme alors dans ses convictions, et ce phénomène est d'autant plus problématique aujourd'hui que les modes à travers lesquels nous informons sont des modes qui, en général, renforcent nos convictions, plutôt que ces modes d'information viennent nous déstabiliser et nous surprendre et nous obligent à réviser nos préjugés. Il paraît qu'aujourd'hui, la plupart des électeurs reçoivent l'essentiel de leurs informations par les réseaux sociaux. Et donc, là où ils circulent, c'est évidemment enregistré et on va leur relayer des informations qui vont renforcer leur point de vue. Et on a de moins en moins d'occasions, paradoxalement, étant donné l'extraordinaire extension du nombre de communications, mais on a de moins en moins d'occasions de confronter son point de vue à l'autre. Ce qui se passe dans des assemblées comme celle-ci, où chacun peut se parler, peut parler à ses voisins, peut prendre la parole en public, interpeller les uns et les autres, pour, le cas échéant, accepter de revoir ses préjugés. Et je pense que quand on examine des campagnes comme celle qui a conduit les électeurs britanniques à voter pour le Brexit, ou quand on regarde la campagne qui s'est conduite aux États-Unis en novembre 2016, qui a conduit à l'élection de Trump, très honnêtement, c'était frappant de voir combien le point de vue de l'autre camp était largement inaudible pour ceux du camp adverse. Et ceci, y compris parmi les plus brillants et les mieux informés des électeurs. Il se fait que j'enseignais aux États-Unis l'an dernier, pendant l'élection de Trump, et que j'avais des étudiants brillants à l'université de Yale, qui étaient tous des pro-Clinton, démocrates, convaincus qu'ils auraient un poste dans la nouvelle administration, etc. Et j'ai enseigné un cours le mercredi 9 novembre 2016 à 8h du matin à ces étudiants, qui étaient en larmes, qui se serraient les uns, enfin, qui se prenaient dans les bras les uns les autres, etc., qui étaient dévastés. Et ce qui m'a surpris, c'est combien ces étudiants brillants, l'élite de la gauche américaine pour les années à venir, n'avaient pas vu venir cette élection de Trump. Pourquoi ? Parce qu'ils ne parlaient jamais aux chauffeurs du bus, quand bien même ils prendraient le bus. Ils n'allaient jamais dans les cuisines quand ils allaient au restaurant. Ils n'avaient aucun lien avec le territoire où ils circulaient. Et c'est une forme d'autisme qui m'a vraiment frappé, cette surprise, cette tétanisation à la suite de l'élection de Trump, en dépit de toute la qualité de l'information, par ailleurs, à laquelle ils auraient pu avoir accès s'ils avaient accepté de mettre en question leur préférence. Alors, c'est aussi au niveau local, et c'est une autre raison encore pour laquelle la revendication de relocalisation va de pair avec la revendication de démocratisation. C'est au niveau local que des rapports de confiance peuvent s'installer entre différentes personnes à la suite d'interactions répétées qu'elles ont les unes avec les autres qui permettent de cimenter la confiance. Pour construire un projet à l'échelle locale, qui implique certains risques, parce qu'il a des incertitudes, parce qu'il faudra gérer des conflits en cours d'exécution, etc., il est important que les personnes puissent, de manière répétée, interagir, peu à peu bâtir cette confiance entre elles. Ceci est possible à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'un territoire relativement restreint. Je pense notamment à des projets qui impliquent des acteurs économiques d'un côté et la société civile de l'autre. Et c'est aussi la raison pour laquelle la démocratie locale a un potentiel qui est aujourd'hui en train d'être redécouvert. Alors, voilà quatre raisons pour lesquelles la démocratie telle qu'elle a fonctionné jusqu'à présent est remise en cause. Il y en a une cinquième, une dernière que je voudrais mentionner avant de me pencher sur les solutions. Et la cinquième raison pour laquelle la démocratie telle qu'elle a fonctionné jusqu'à présent ne paraît plus satisfaisante, elle tient à l'urgence écologique. Et je dirais à ce sentiment que nous avons tous, en tout cas que moi j'ai, que le temps politique est, et c'est paradoxal ce que je vais dire sans doute, trop lent par rapport à l'urgence de prendre des mesures audacieuses, j'allais dire radicales, mais ça risquerait d'être mal interprété, pour faire face à l'urgence écologique. Et c'est paradoxal que je dis ça, parce qu'on dit, je dis, la démocratie, c'est un temps trop lent, alors que l'on reproche toujours à la démocratie de viser le court terme et pas le long terme. Et je dois dire que sur ce point, il faut que nous ayons entre nous un débat, parce qu'il y a deux points de vue qui peuvent être défendus sur cette question. Il y a un point de vue qui n'est pas le mien, mais je le présente aussi fidèlement que possible. Et ce point de vue, c'est que la démocratie n'est pas la solution, mais le problème, parce que l'urgence écologique exige des mesures fortes, volontaristes, et donc un pouvoir qui ose s'assumer comme tel et qui ne passe pas trop de temps, s'il vous plaît, à trop mesurer le pour et le contre, consulter les citoyens et s'assurer que la décision est bien légitime. À un pôle de ce spectre, il y a la position du philosophe allemand Hans Jonas, qui publie en 1979 l'ouvrage « Le principe responsabilité », où il défend l'idée que, comme nous avons aujourd'hui, grâce aux technologies, notamment nucléaires, la possibilité de mettre fin à l'humanité, il ne croyait pas si bien dire, parce qu'aujourd'hui, l'anthropocène dont chacun parle, c'est cela, en fait. Hein, c'est une arme nucléaire qui peut avoir les mêmes conséquences de détruire Sapiens, en tout cas, je le pense. En tout cas, conduire à l'effondrement de notre civilisation. Donc je crois que l'œuvre de Hans Jonas, quoique focalisée sur le risque d'holocauste nucléaire, est d'une grande actualité. Et ce que dit Hans Jonas, c'est qu'il est donc dangereux de faire trop confiance au peuple, qu'il faut que l'État prenne des décisions qui soient aussi, comment dire, oui, radicales, mais dans le sens où l'on doit éviter d'être captif des attentes du peuple, ces attentes fussent-elles radicales. Il est en faveur, au fond, des philosophes froids de Platon, quoi, de l'idée que la démocratie est dangereuse parce qu'elle empêche de prendre les mesures qui sont nécessaires pour le bien-être à long terme de l'humanité. Et dans une veine un peu semblable, quoiqu'il se défendrait de cette présentation, on a l'ouvrage de Dominique Bourg et Kerry Whiteside, « Vers une démocratie écologique », publié au Seuil, je crois, en 2012, et où ces auteurs défendent l'idée qu'à côté de la Chambre des représentants, d'un Parlement, il faut un Conseil des sages, ils appellent ça la Haute Chambre, qui serait une chambre vouée aux générations futures. Et là, ce serait peuplé de gens comme Michel Serres et Hubert Reeves, si vous voulez, des grands savants qui auraient pour objectif, au fond, d'introduire du long terme dans la décision politique, à partir de l'idée que la politique, as usual, risque de ne pas fonctionner assez bien, vu ce qu'exige la transition écologique. Alors, moi, j'ai eu des débats avec Dominique Bourg sur ces questions, et je pense d'ailleurs que je viens de résumer un propos qui est beaucoup plus nuancé qu'il ne l'est en réalité, enfin, que je n'ai pu le résumer. Mais nous sommes en désaccord, je pense, sur cette question, parce que je pense, pour ma part, et c'est l'autre position que l'on pourrait prendre, que ce dont nous souffrons, c'est plutôt de l'absence de démocratie, qui conduit les politiques à prendre des décisions en fonction d'intérêts qui ne sont pas ceux des gens ordinaires qui, au cours d'une agora publique, auraient proposé telle ou telle solution, mais que malheureusement, les politiques prennent souvent leurs décisions en fonction des intérêts économiques les plus puissants et en fonction d'objectifs de court terme, notamment de maximisation du produit intérieur brut par habitant comme manière de créer des emplois et de stimuler la création de richesses, et certainement pas en faveur de la vie bonne, du bien-être de chacun, de la convivialité et de la durabilité que beaucoup d'entre nous appelons de nos voeux. Le débat est ouvert. Et bien entendu, si on veut être cohérent avec sa position de démocrate, il faut accepter que la conséquence est que parfois, les processus démocratiques vont aboutir à des décisions qui n'auront pas notre préférence, y compris des décisions qui peuvent sacrifier le long terme pour le court terme et qui, cependant, auront une forte légitimité si le processus démocratique a bien fonctionné. Il y a eu une conférence célèbre donnée à Louvain-la-Neuve en 1980 par Daniel Cohn-Bendit et Cornelius Castoriadis. Vous connaissez Cohn-Bendit, vous connaissez sans doute aussi Cornelius Castoriadis, qui est un grand philosophe pour qui j'ai une grande admiration et qui est un des meilleurs penseurs sur la question des rapports entre démocratie et écologie. Et après cette conférence, la parole est donnée au public, et quelqu'un dans le public, un étudiant à Louvain-la-Neuve, dit « Mais si une décision est prise démocratiquement par une consultation populaire, mais qu'elle va à l'encontre de vos convictions écologiques, messieurs Cohn-Bendit et Castoriadis, que feriez-vous » Et Cohn-Bendit ne sait pas trop, il se recroqueville, il passe le micro au voisin, etc. Et Castoriadis, lui, n'a aucune hésitation, il dit « Évidemment, c'est la démocratie qui doit primer ». Mais ça pose parfois un dilemme, et ce serait vraiment intéressant pour moi de vous entendre sur ce dilemme et sur les solutions qui sont celles d'un conseil des sages, d'un point de veto dans les mécanismes démocratiques qui permettrait de mieux intégrer l'exigence de la transition écologique et son urgence. Alors, si l'on veut réfléchir des manières de faire progresser, j'ai oublié en fait d'utiliser mes PowerPoint, mais c'est peut-être pas très grave. Je voulais simplement signaler qu'il y a toute une littérature autour de la renaissance de la démocratie à l'échelle locale, et l'expression qui est utilisée aujourd'hui pour décrire cela dans la littérature scientifique, c'est la « slow democracy », ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que ça nous ramène à cette question de l'urgence. Et c'est vrai que la démocratie suppose des processus qui sont souvent vus comme pénibles, lourds, chronophages pour les gouvernants, même si je crois que c'est un excellent investissement que de renforcer la légitimité de la décision démocratique par la consultation. Et donc, il y a maintenant des travaux qui cherchent à voir comment on peut revenir, à la démocratie dans sa conception originelle, notamment aux États-Unis, où les town hall meetings, vous savez, ces réunions sur la place publique où les citoyens délibèrent et puis votent à main levée, etc., comment ces manières de décider peuvent être revivifiées. Et cela commence à se faire dans notamment les États du nord-est de l'Angleterre, la Nouvelle-Angleterre, des États comme le Vermont, précisément, ou le Massachusetts. Et donc, c'est un mouvement en pleine efflorescence. Alors, je pense qu'une fois qu'on admet la nécessité de réformer la démocratie électorale classique, plusieurs questions se posent. Je voudrais en énumérer quatre. La première question est de savoir si on veut démocratiser l'État, le système politique. Et aujourd'hui, c'est ainsi que l'on parle de démocratie, ou bien si on veut vraiment démocratiser la société. Et pour ma part, je suis convaincu qu'il est nécessaire d'aller au-delà d'une démocratisation des institutions politiques pour aussi démocratiser l'école, l'université, l'entreprise, la famille. La démocratie, ce n'est pas simplement le mécano institutionnel des collectivités publiques, je pense. D'ailleurs, l'essentiel de notre vie quotidienne n'est pas déterminé par les règles adoptées par les communes, les régions, communautés, États, mais par la manière dont nous habitons les institutions que sont la famille, l'université, l'école, l'entreprise. Et puisque quelqu'un a utilisé le terme de radicaliser, je crois que c'est une question radicale que de prendre le mot démocratie, que de le transposer à ces autres lieux où généralement ce mot n'est pas utilisé, pour voir ce que ça donnerait. Et ça oblige à être imaginatif quant à l'examen des conséquences. Mais je crois que si l'on démocratise ces différentes institutions, l'on aboutit à la conclusion, au moins, c'est le minimum qu'on puisse attendre, que les décideurs vont devoir rendre des comptes, répondre aux questions qui leur sont posées, offrir des justifications par rapport aux attentes des personnes qu'elles prétendent gouverner. Et je pense que c'est dans ces lieux-là aussi que l'exercice de la démocratie peut et doit avoir un sens. Et je crois que c'est d'autant plus important que dans la démocratie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, nous sommes très souvent amenés à délibérer des moyens, et on a des moyens extraordinairement rationnels et sophistiqués pour faire évoluer la société. Mais le débat sur les fins, que voulons-nous, est généralement complètement omis. Moi, ça me frappe tout à fait de voir combien un très grand nombre de choix faits par les autorités publiques, par exemple, le sont au nom de la croissance économique, au nom de la croissance du PIB par habitant, sans qu'on s'interroge sur l'absurdité complète de cette fin-là, qui, depuis longtemps, n'est plus une source de bonheur, de bien-être, de félicité pour les gens. Et en fait, met les gens en concurrence les uns avec les autres, introduit le virus de la compétition, là même où il faudrait de la bienveillance, de la convivialité et de la coopération. Et on est dans une situation incroyable et immature où on délibère de moyens d'avancer sans que l'horizon dans lequel nous voulons nous projeter soit jamais débattu. C'est quand même une sorte de tâche aveugle incroyable dans notre démocratie. Et je crois que le fait de démocratiser non seulement l'État, mais la société, de poser chaque fois la question du « à quelle fin ?», en vue de quel objectif serait extrêmement intéressant, parce que cela éviterait qu'on laisse ininterroger ces objectifs, généralement laissés implicites d'ailleurs, que la seule manière de réduire la pauvreté, c'est la croissance, que la seule manière d'augmenter le bonheur, c'est la croissance, que la seule manière de créer des emplois, c'est la croissance. Et cette croissance, pourtant insoutenable du point de vue écologique, est devenue une sorte de fin par défaut que nos sociétés se donnent, à défaut d'interroger véritablement les fins qu'elles veulent se donner. Et donc je pense que c'est extrêmement important de sortir de cette espèce de prison qui fait qu'on délibère de manière absurde sur les fins sans poser la question, sur les moyens sans poser la question des fins. Alors, deuxième question qui se pose, la première c'était faut-il démocratiser l'État ou bien quel intérêt y aurait-il à démocratiser la société? Deuxième question qui se pose, c'est ce que j'appellerais la démocratie de la norme par rapport à la démocratie du faire. Je m'explique. On a aujourd'hui, Boisfort en est un exemple que j'admire, dans une situation où beaucoup de citoyens et citoyennes commencent à construire des projets, à prendre des initiatives au niveau local en matière d'énergie, d'alimentation, de mobilité, d'économie circulaire, de recyclage des déchets, etc., de partage de savoir, comme à travers les systèmes d'échanges locaux, de construction de monnaies complémentaires, par exemple. Et ces pratiques sociales, très souvent, précèdent, anticipent, débordent les cadres juridiques et institutionnels. Ces pratiques, très souvent, ne vont pas dans telle ou telle case des documents, des formulaires que la commune a dans ses tiroirs. Les lois ne sont pas faites pour accueillir ces initiatives citoyennes spontanées, d'autant plus qu'elles sont très variées, elles diffèrent de lieu à lieu et de groupe à groupe. Les cadres réglementaires classiques ne sont pas propres à véritablement encadrer cet exercice de démocratie qui consiste à construire des projets en commun. Et c'est la raison pour laquelle, et c'est la deuxième question que je voudrais poser, il faut peut-être concevoir une autre manière pour la décision politique de se prendre et de se, de se manifester à travers certaines formes. Peut-être que la politique ne doit plus être là pour définir des cadres qui vont aiguiller la société, qui vont diriger les choses, qui vont influencer les comportements seulement, il faut cela aussi. Peut-être qu'il y a dans la gamme des outils que les politiques utilisent un outil qu'il faut inventer, qui consiste non pas à diriger, non pas à ordonner ou à interdire, mais à créer des espaces permettant d'expérimenter. Créer des espaces permettant à chacun d'expérimenter des nouvelles formes de vie, des nouvelles manières de se déplacer, des nouvelles manières de consommer, des nouvelles manières de partager, des nouvelles manières de recycler, en permettant à chacun de s'exercer dans certaines pratiques sociales, en permettant aux groupes de, au fond, se donner leurs propres normes, et que les politiques offrent un espace dans lequel ces expérimentations peuvent se tenir. Je note par exemple qu'en France, on a en 2003 adopté une loi qui s'appelle la loi sur l'expérimentation locale, et que c'est cette loi qui a permis à quelques territoires de France, ils sont une dizaine maintenant, ils seront une quarantaine d'ici 2 ans, de développer des zones dites, des territoires dits zéro chômeur de longue durée. Alors, ça, on pourrait en parler de ces expériences de territoire zéro chômeur de longue durée, c'est très intéressant, et c'est à une échelle relativement réduite, des territoires de 5 à 10 000 personnes. Mais ce qui est frappant, et ce sur quoi je voudrais insister ici, c'est que c'est la liberté d'expérimenter en fonction de l'appétit des gens dans ces territoires relativement réduits, et la confiance qui, sur ces territoires, a pu s'instaurer entre différents acteurs locaux, qui a permis à cette expérience de territoire zéro chômeur de longue durée de se développer. Et c'est donc l'inverse d'une démarche, j'allais dire autoritaire, qui aurait consisté à imposer à chaque territoire de créer autant d'emplois sans tenir compte des ressources locales et de la mobilisation des citoyens dans ces territoires. Donc, il faut peut-être une nouvelle grammaire du pouvoir, une nouvelle manière de concevoir le pouvoir, non plus comme étant là pour diriger, pour régenter, pour ordonner, mais plutôt pour favoriser l'expérimentation citoyenne. C'est la deuxième question que je voulais poser. Troisième question, c'est entre la délibération et le vote. David Van Reybroek écrit un livre qui s'appelle « Contre les élections ». Ce livre, cependant, n'est pas un livre contre le vote. C'est un livre contre le fait d'abandonner ses pouvoirs à des représentants élus à qui l'on délègue tout, à qui l'on fait une confiance aveugle dans l'intervalle de deux élections, et à qui l'on accepte de confier cette mission en promettant, dans l'intervalle, de se tenir tranquille et silencieux. Il est contre cela, mais il n'est pas contre le vote. Et ce qui me frappe, c'est que les auteurs, parmi les auteurs que j'ai mentionnés, comme Cornelius Castoriadis, par exemple, font remarquer que bien que la délibération que j'évoquais tout à l'heure permettant la démocratie interpersonnelle, l'échange de points de vue, donnant à chacun la possibilité et même l'obligation de modifier son point de vue à la lumière de l'argument meilleur que l'autre lui présente, n'exclut pas qu'au bout du compte, l'on doive voter. Pourquoi ? Parce que le vote, et le vote à la majorité, finalement, c'est la reconnaissance de ce que toutes les opinions se valent, quelle que soit la qualité de sa rhétorique ou de sa gestuelle, quelle que soit la rigueur de son argumentation, quel que soit le volume des rapports d'experts qu'on peut amener à l'appui de sa position, tout ça est important dans la délibération, mais à un moment donné, il faut trancher. Et si l'on ne vote pas, comment va-t-on trancher ? Eh bien, en fonction de l'argument qui a été présenté de la manière la plus convaincante par l'orateur le meilleur. Et donc, ce serait, à mon avis, problématique. Et je crois que, en fait, la bonne manière d'organiser un processus démocratique doit combiner la délibération, l'interpersonnel, la possibilité pour chacun de revoir sa position à la lumière de cette argumentation avec d'autres, et le vote, au bout du compte, parce que sinon, c'est ne pas tenir compte de ce que l'opinion de chacun doit se voir reconnaître le même poids dans la synthèse finale. Enfin, quatrième question que je souhaitais poser, c'est entre deux visions du pouvoir ou de la démocratie que j'appellerais un petit peu par provocation solide et liquide, respectivement. Je suis frappé de voir que quand nous parlons du pouvoir dans le langage ordinaire, au fond, nous parlions d'une chose qui est solide. Pensez aux métaphores qu'on utilise pour parler du pouvoir. On dit qu'on prend le pouvoir, on dit qu'on transmet le pouvoir. Le pouvoir est représenté par un sceptre que l'on tient, comme dans le sceptre d'Ottokar. Le pouvoir est quelque chose qui est concentré entre les mains des dirigeants. C'est une conception solide du pouvoir. Imaginons qu'on passe à une conception liquide du pouvoir qui signifierait que le pouvoir est exercé partout où les gens prennent la parole, partout où les gens décident de poser des questions, partout où les individus s'unissent pour délibérer entre eux quant à la réforme qu'ils veulent proposer à la cantine scolaire, au conseil d'entreprise ou entre voisins sur la manière de gérer un commun qu'ils entretiennent ensemble, le pouvoir, en fait, n'a pas à être nécessairement conçu comme quelque chose qui est entre les mains de quelques-uns à qui il a été confié. Et le pouvoir n'est pas, et ça découle de cette idée d'un pouvoir liquide, le pouvoir n'est pas en quantité fixe. Ce n'est pas parce que, quand vous entretenez un potager collectif urbain, vous exercez du pouvoir, vous faites des revendications à la commune, vous demandez un soutien, etc., que d'autres perdent du pouvoir. Le pouvoir n'est pas en quantité fixe. Il peut être exercé de manière beaucoup plus intense à travers l'ensemble de la société, pourvu que chacun décide d'être citoyen dans sa vie quotidienne, décide de s'allier avec d'autres afin de peser sur les décisions que les politiques vont prendre. Et ce n'est pas priver les politiques élus d'une parcelle de leur pouvoir, c'est au contraire, à mes yeux, élargir l'imagination du politique, c'est renforcer la légitimité de la décision politique si celle-ci peut être nourrie par ces initiatives citoyennes et par ce pouvoir que les gens prennent, je retombe dans la métaphore du pouvoir solide, mais exercent, si vous voulez, là où ils sont. Et c'est une manière pour les politiques, au fond, de comprendre, beaucoup mieux qu'ils ne le feraient s'ils étaient abandonnés à eux-mêmes, ce qui correspond aux attentes des citoyens et citoyennes qu'ils doivent servir. Et donc, ça, c'est peut-être une quatrième question, c'est est-ce que nous ne devons pas aller vers cette conception d'un pouvoir liquide, un pouvoir dispersé, un pouvoir diffus à travers l'ensemble de la société pour échapper à cette idée que le pouvoir est nécessairement logé parmi les dirigeants, dirigeantes, responsables politiques. Alors, ça, c'est au fond le diagnostic que je souhaitais proposer sur la crise de la démocratie aujourd'hui, sur sa nécessaire métamorphose et sur la transition démocratique telle qu'elle est en train de s'opérer.
Vous venez d'écouter une conférence d'Olivier de Suiter, juriste et professeur de droit international à l'UCL, conférence qui avait pour thème l'urgence d'une transition démocratique, enregistrée le 18 novembre 2017 à la Vénerie, le centre culturel de Watermael-Boitsfort, et à l'invitation des compagnons de la transition.
Jingle ? Il y a moyen d'avoir un jingle ? Non, mais... non, mais pas maintenant, maintenant c'est trop tard. Enfin, je t'ai fait un signe, tu l'as pas vu ? Non, mais c'est quand même pas possible cette radio, on est vraiment entouré par des incompétents, moi j'en ai ras-le-bol de travailler ici. C'est vraiment, ça me saoule. Non, il y a un moment... Non, voilà, c'est tout, ça m'énerve. Je me casse.
Radio Campus, la radio qui n'envoie jamais ses jingles à temps.